Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Silence on joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, une émission un peu spéciale car Silence on Joue est attaqué, envahi par Canard PC. Et oui, ça arrive, j'ai rien pu faire, ils ont pris d'assaut, un siège de 10 jours, j'avais plus de quoi bouffer, enfin bon. Mais j'ai le plaisir de recevoir Net Sabès ou Sébastien Delahaye. Tiens, je t'appelle comment? Non, je t'appelle Net. Net, ça va être très très bien, ça va pas me changer. Pour la sortie en version électronique du livre Call of Duty, les coulisses d'une usine à succès, disponible sur Amazon pour quelques euros, 4 ou 5, je crois, entre les deux, je crois.
Entre les deux, absolument.
Voilà, c'est ça. Et toute l'histoire de Call of Duty, c'est de la saga Call of Duty et de tout ce qui l'entoure, comme quoi on va voir comment ce titre, comment cette saga, comment les gens qui ont été impliqués de près, de loin, à côté de cette saga, ont changé le visage de l'industrie du jeu vidéo en 10 ans. Grosso modo, c'est ça.
Et on fait grossir Activision au passage.
Et on crée le plus gros éditeur mondial de jeux vidéo au passage. Voilà, on va essayer de pas forcément de lire le livre dans l'émission, même si c'est peut-être ce qu'il aurait fallu faire, mais on n'a pas forcément le temps. Mais voilà, on va essayer de voir quelques étapes. J'ai aussi donc le plaisir d'accueillir un de mes chroniqueurs favoris, Pipo Mantis, Pierre-Alexandre Rouillon de Canard PC aussi. Oui, parce que j'ai pas dit Inès Abès de Canard PC, parce que c'est donc les deux responsables de Canard Console.
Exactement.
À l'intérieur de Canard PC. C'est ça.
Tout à fait.
Formidable. Je suis très très heureux de vous avoir ici. C'est génial.
On est très content d'être là.
On va commencer avec toi, Pipo, avec quelques news sur une sortie qui aurait pas dû forcément en être une.
Alors, ça aurait pu en être une, juste peut-être pas à ce prix-là. Bien sûr, Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, qu'on appelle désormais déjà le prologue de luxe, la démo qui se fout de la gueule du monde et j'en passe. Très très chouette jeu en soi, très très chouette démo. Enfin, on est dans une grosse base avec Solid Snake, on teste un peu le nouveau moteur, le Fox Engine, le nouveau moteur de Metal Gear. On doit aller sauver deux gamins dans un camp d'enfants soldats. C'est très chouette, vraiment, on s'amuse, on cherche les différents moyens d'y arriver, on joue un peu avec les gardes. Manque de bol, ce qui ressemble exactement à la démo de Metal Gear Solid 2 sortie il y a 11 ans, coûte 30€ dans le commerce, 20€ en démat, et c'est absolument du foutage de gueule, puisque c'est juste un outil promotionnel pour Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain qui sortira début 2015 normalement. Enfin, je trouve ça absolument aberrant qu'on vende aujourd'hui, ce qui est rien de plus qu'une démo, au prix, peut-être pas au prix fort, mais enfin, c'est déjà un prix assez fort pour ce que c'est, je trouve.
30€
pour 2 heures de jeu.
La boîte.
30€ la boîte, 20€ le démat pour 2 heures de jeu, à savoir que on peut débloquer des petites missions annexes qui durent 5 à 10 minutes, mais que dès le premier jour, Eurogamer a déjà balancé une vidéo où ils ont fini Ground Zeroes en 10 minutes. Puisqu'en fait, une fois qu'on sait où sont les deux enfants à sauver, on les chope, on les exfiltre et puis bisous, au revoir.
Ah oui, c'est un problème quand même. non
c'est... Ah ben, c'est un léger problème.
Enfin, c'est peut-être que Hideo Kojima avait des problèmes d'argent, un problème de budget pour finir son jeu.
Beaucoup de gens m'ont parlé de ça.
Il aurait pu faire un Kickstarter.
Beaucoup de gens m'ont parlé de ça. Ce à quoi j'ai répondu que c'est pas à nous de payer les retards de Kojima Productions, c'est à Konami de le faire. Donc que Konami le fasse et n'essaie pas plutôt de nous faire payer, nous faire cracher 30 ou 20 euros pour ce jeu qui, et c'est ça qui est terrible, est quand même très sympathique. Hein. Enfin, j'ai passé de très très bons moments sur Grand Zeroes. Mais voilà, ça aurait dû être gratuit ou filé pour les mecs qui ont précoce de Phantom Pain ou que sais-je. Pas en tout cas vendu comme ça sur les étals à 30 balles. Quoi. Non, c'est juste pas possible.
Mais une autre sortie qui est plus réjouissante, Lufthauser.
Ah, Lufthauser, le jeu de chez Vlambeer, donc déjà responsable de Super Crate Box, Ridiculous Fishing, Nuclear Throne, dont j'étais venu parler déjà il y a quelques temps. Mm-hmm. Donc des gars que j'aime beaucoup, beaucoup, tout plein. Lufthauser, c'est sorti donc il y a quelques jours sur PC, PS Vita et PS3. C'est un shoot arcade. Tu vois un peu les jeux genre le Baron Rouge, genre, je sais pas si tu te souviens, c'est ce qu'on appelle les thrusters, c'est-à-dire ces jeux comme Astéroïde où tu peux que te pousser et te déplacer sur les côtés, mais pas te déplacer plus que ça. Faut jouer avec l'inertie, la gravité, etc. Et donc là, tu joues un vieux coucou.
Qui était le principe de jeu du premier jeu vidéo de 1960,
Space War,
finalement. Ouais, enfin, ouais. C'est du jeu vidéo MIT 1967, 62, 63, je ne sais plus.
Et du coup, donc, c'est juste un jeu d'arcade où tu dois combattre des vagues d'ennemis, des bateaux qui sont à l'eau, au sol, mais donc du coup dans l'eau. Et en fait, ce qui fonctionne très très bien, c'est que tu vas changer les parties de ton vaisseau, que ce soit son arme, son châssis ou son propulseur. Et chaque combinaison va se jouer différemment. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que chaque élément de l'avion, c'est une piste musicale. Donc en fait, la musique sera différente pour chaque combinaison d'avion. Il y a 125 combinaisons, je crois. Et pareil, pour chaque partie de l'avion, tu as un ou deux petits défis à remplir qui vont être les moyens de gagner de l'XP, des points. D'accord. Pour gagner d'autres choses. C'est absolument addictif, c'est génial. Ça se joue donc très très bien, même sur Vita. Et c'est un des jeux qui est en train d'entrer au panthéon de ceux qui m'ont filé une ampoule au pouce. Et Dieu sait qu'ils sont rares.
Ah ouais.
Ah oui, là.
Moi, c'était Fight Night. Ça m'avait niqué les deux pouces, là, pour le coup. Des nouvelles du côté des casques à réalité virtuelle. Il n'y a plus que l'Oculus Rift. Enfin, il va y avoir un concurrent, peut-être.
Tout à fait. Pardon, pour la GDC, Sony a annoncé ce matin le projet Morpheus, qui est un casque de réalité virtuelle pour PS4. Pour l'instant, on n'a pas d'infos du tout techniques ou sur les jeux, ou sur date de sortie, ou sur le prix. On sait juste qu'ils bossent dessus.
Mais on savait déjà qu'ils bossaient dessus. Enfin, il y avait cette rumeur.
Il y avait une rumeur, ouais. C'est officiel. C'était à la GDC, donc c'est pour les développeurs. Ils vont commencer à filer des kits, a priori, pour les développeurs. Donc, il y aura peut-être des jeux dans un an ou deux.
Et on n'a pas du tout de spécifications techniques. Genre, est-ce que les écrans sont en HD? On sait que pour l'Oculus Rift, dans la version qui a été livrée pour les backers de Kickstarter, c'était pas de la HD. Enfin, si, c'était du 720 ou...
Est-ce que 720p? Ah, non, c'est du 1080p.
Oui.
Sur le projet Morpheus, pour l'instant, ils ont dit qu'ils visaient la plus haute résolution possible et le plus gros framerate possible.
4K et 60 FPS.
Donc c'est pas du tout
420
images par seconde.
C'est ça.
Mais c'est pas du tout précis, en fait, pour l'instant.
D'accord. Donc on va attendre de voir.
Tout ça pour des Google Glass avec deux PlayStation Move collés de chaque côté de la tête, quoi.
C'est basé sur le Move, effectivement.
Ah bah voilà.
tout le côté gyroscopique.
À noter d'ailleurs que le Move, c'est une très bonne techno.
Par ailleurs.
Ça s'est complètement planté,
tout
mais...
utilisé, mais...
Voilà.
Oui.
Mais c'était quand même une super techno quand c'est sorti.
Puis c'était rigolo, cette boule qui changeait de couleur. Bref, donc Morpheus, on va attendre de voir. Et puis des nouvelles du créateur, du papa de Lara Croft.
Oui, Toby Gard, qui avait un peu disparu depuis les reboots de Tomb Raider il y a quelques années, a monté un studio qui s'appelle Tangent Lemon hier, qui va bosser sur des petits jeux indés. Enfin, ils sont une quinzaine. Donc ils sortent du circuit AAA.
Une quinzaine, c'est quand même un gros studio indé pour le coup.
Oui. Pour eux, c'est petit. Pour les indés, c'est gros. Mais en fait, ils bossaient depuis déjà quelques mois sur un jeu qui sort cette semaine, là, qui s'appelle Yaiba Ninja Gaiden Z, qui est un jeu de Spark, on va reparler tout à l'heure.
Oui. Qui n'est pas vraiment indé ni expérimental d'ailleurs.
Voilà, et qui est une grosse purge. C'est un jeu de zombies avec Ninja Gaiden. C'est assez sexiste, c'est ultra bourrin, c'est assez nul. Et donc c'est Toby Gard, voilà.
Ah, mais bien, hein,
c'est un peu foiré sur le coup.
Il s'est un peu foiré.
Le créateur de l'icône féminine du jeu vidéo qui finalement se retrouve à faire un jeu que j'avais testé à l'E3, effectivement, c'était atterrant. La démo se finit sur un camion que tu jettes à toute vitesse dans une boutique qui est en forme de jambes de femme écartée, quoi. Enfin, on en est là.
on en est là. Merci Toby. Et c'est, oui, c'est un peu dommage quand même de se rendre compte à ce moment-là de sa carrière qu'il faut mieux aller dans l'indé. C'est pas forcément la meilleure solution, parce que l'indé, s'il y a un endroit où tu dois d'abord faire tes preuves, vraiment faire des jeux de qualité pour qu'ils finissent par se vendre, et il y a un endroit qui ne pardonne pas l'échec, c'est bien le secteur indé. Et il a plutôt intérêt à se reprendre s'il veut s'en sortir, là, pour le coup. Donc Toby Gard, le com des coms de la semaine dernière, c'était quoi? C'était South Park, c'était Banished et c'était Gauge, on va dire ça.
Gage.
Ah oh, oui, bon, ça va.
Gage.
Voilà, Gage.
Jauge.
Ouais, on va dire ça. Roumain qui dit « Merci de parler de Banished en tant que fan de City Builders, dégoûté par les derniers du genre, beaucoup trop feignant à mon goût. J'attendais Banished depuis déjà quelques temps et j'ai trouvé le jeu vraiment prenant, voire addictif. On rentre très facilement dans le jeu et le petit nombre de bâtiments disponibles est rapidement compensé par la difficulté de certaines périodes charnières du développement de votre ville. Certains acharnés stacanovistes vous diront que le jeu n'offre aucun challenge et qu'un développement organisé et systématique permet de parcourir le jeu très très facilement. À ceci, je répondrai démarrer sur une carte minuscule et montagneuse avec peu de ressources, essuyez une vilaine tornade ou un incendie ravageur et regardez vos ouailles crever pitoyablement la gueule ouverte. Voilà, ce sera, vous rigolerez moins.
Oui, t'es agacé. Hein.
Ouais. Je tenais aussi à tirer mon chapeau au créateur du jeu qui, comme Kalash le disait, a développé le jeu seul. Réaliser l'intégralité d'un jeu de cette qualité seul et sans bug le jour de la sortie relève malheureusement de nos jours d'un miracle. Mention spéciale aussi pour l'ergonomie de l'interface qui, comme Erwan le soulignait, est terriblement efficace. Par contre, je tiens, et ça on l'avait oublié, à préciser que Banished n'est pas disponible seulement sur Steam. On peut également l'acquérir sur le Humble Store, entre autres, qui en plus de nous fournir une clé Steam pour le jeu, fournit également une version DRM free, donc sans DRM, de Banished. C'est trop rare pour ne pas en parler.
Et rapporte plus d'argent à son auteur, si je ne me trompe pas d'ailleurs.
Normalement, oui.
Oui, voilà.
Oui, Steam prend une marge plus importante, voilà. Effectivement. Mais c'est toujours bien de signaler qu'il y a une version sans DRM qui existe de Banished. Red qui dit c'est sympa d'avoir parlé de Gage. Comme quoi, on peut ne pas oublier un bon petit jeu quand bien même celui daterait de 2012. Par contre, ça aurait été encore plus chouette de signaler qu'Étienne Perrin est aussi le co-auteur avec son frère du très délirant et old school.
Zorbier.
Merci, je savais, je sais
et
pas,
j'avais. Excellent.
J'avais une intuition.
L'efficacité de NetSavet.
Voilà. Même si les deux jeux n'ont rien à voir, c'est une bonne petite fratrie et française qui semble se dessiner des projets un peu plus ambitieux pour bientôt. Point d'interrogation. Tu as des nouvelles de la fratrie Perrin ou?
Alors, ils font dans Games, le magazine. Enfin, Étienne, en tout cas, fait un pré-mortem de Jeanne, son jeu d'horreur qu'il est en train de développer. Et c'est en développement, on ne sait pas du tout pour quand, mais ça avance.
Ça ressemble un petit peu à Lone Survivor, si je ne me trompe pas, vu de côté, pixel art.
Et c'est avec Neko.
D'accord. Et enfin, Pedro Littlewood, mes collègues et moi avons terminé South Park hier, je suis bien content que vous en parliez, gros coup de cœur de ma part et surtout gros coup de fun, ça fait un sacré moment que je n'avais pas ri autant sur un jeu. Et c'est vrai en fait, en jouant à South Park, on se dit, c'est vrai qu'on ne rigole pas beaucoup dans les jeux vidéo, on a très rarement finalement des fous rires, des trucs qui nous picotent. Moi, bon, ça m'est arrivé avec Jazz Punk, que pour le coup, il était très drôle. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de très commun. Comme évoqué dans l'émission, on a vraiment l'impression d'être aux commandes d'un épisode, tant les visuels et le scénario sont fidèles à l'esprit de la série. Ce jeu a même réussi à réunir des amis non-joueurs qui ont pris plaisir à nous regarder évoluer et à rire à chaque référence. Effectivement, beaucoup de fanservice, mais quel bonheur. Et pour les gamers, une autre tonne de références aux classiques du genre. Voilà, c'était le com des coms de la semaine dernière. Et pour commencer de parcourir un peu la saga Call of Duty, écoutons un petit son d'une vidéo qui date, je crois, de 2002 ou 2003. Ceux qui l'auraient reconnu par hasard, c'est le trailer de la sortie de Call of Duty, le premier du nom, donc qui est sorti en 2003. Mais ton livre Net se commence au commencement, au début, et finalement c'est toujours intéressant d'avoir l'histoire derrière l'histoire, la petite histoire qui amène à une histoire plus grande et l'anecdote. Enfin, moi, le truc qui est délirant, c'est voilà, il y a une anecdote, il y a eu un truc qui se passe au départ et qui a peut-être
qui a sûrement changé la face du jeu vidéo, en tout cas, et c'est pas des inconnus qui sont en scène.
Absolument, c'est Max Spielberg, le fils de Steven Spielberg, qui joue à GoldenEye, donc le jeu de Rare sur Nintendo 64, devant son père pendant que celui-ci fait le soldat Ryan.
Voilà, donc on a Spielberg qui bosse sur le soldat Ryan et Max Spielberg qui avait à l'époque une dizaine d'années,
ouais, qui était ado,
qui joue à GoldenEye 007, autre jeu important quand même qui a inspiré beaucoup l'évolution des FPS, surtout les FPS consoles, et il joue à GoldenEye 007 sur sa N64 et là Spielberg a comme une révélation aussi.
Il se dit c'est cool les FPS finalement.
Ouais.
Et il veut faire un FPS du soldat Ryan. Sous un autre titre, parce que Soldat Ryan, c'est une licence, c'est un film.
Mm-hmm.
Une autre histoire, un autre titre. Donc, il choisit la Medal of Honor, la médaille de l'armée américaine. Et vu qu'il a un studio de jeux vidéo, Spielberg, la DreamWorks Interactive, il va le pitcher là-bas. C'est en 97. Et au début, les gens sont un peu réticents parce que Seconde Guerre mondiale, ça n'intéresse personne, c'est trop sérieux, c'est pas trop l'esprit des FPS à l'époque.
S'ils savaient.
et finalement, vu que c'est le patron, ils le font le jeu.
C'est ça. Bon, on n'est pas d'accord, mais en même temps, c'est vous qui payez les salaires.
Vous êtes Steven Spielberg.
Et en même temps, vous appelez Steven Spielberg, donc on va le faire. Et effectivement, donc DreamWorks Interactive sort Medal of Honor, le tout premier, 99, sur la PlayStation. Et c'est quand même un jeu qui change pas mal de choses.
Ouais, c'est un des premiers gros FPS console. C'est un des premiers gros FPS Seconde Guerre mondiale. C'est un gros succès à l'époque. Le jeu avait plein de problèmes techniques. Il y a beaucoup de niveaux de nuit parce qu'il ne savait pas faire le jour à l'époque. Donc, c'est des trucs bizarres comme ça. Mais du coup, tout le monde se dit que ça marche bien, la Seconde Guerre mondiale.
Oui, parce que c'est un vrai succès de vrai succès de vente. Enfin, en plus maintenant aujourd'hui tout le monde. Enfin, c'est un jeu qui a marqué à l'époque. C'est un jeu historique.
C'est une marque célèbre maintenant.
C'est une marque célèbre et c'était le premier. Donc on est en 99. Bon, DreamWorks Interactive ne survit pas malgré les bonnes ventes. C'est est revendu.
Ils sont revendus à Electronic Arts au même moment en fait, qui le renomme Electronic Arts Los Angeles, qui va ensuite continuer à faire des Medal of Honor pendant très longtemps.
Parce que alors voilà, il y a ce alors tu peux continuer mais j'essaie de en fait, il y a un truc qui se passe aussi. Medal of Honor est un jeu console, ouais. Ça a cartonné, mais l'Empire, le lieu où doit se passer le FPS à l'époque, c'est le PC. Donc, vu que c'est un carton en console, il faut un Medal of Honor PC. On ne peut pas porter directement le jeu parce qu'il est sous. Il n'utilise pas la puissance sans doute des PC de l'époque parce que la PlayStation est quand même.
C'est très différent, ouais.
Ouais, c'est très différent. C'est deux technologies très différentes. Donc, en fait, ils vont demander à un studio qui n'est pas forcément le studio le plus réputé de l'univers.
En fait, ils vont demander à id Software à la base.
Ouais. Ah oui.
Et id Software n'a pas le temps, n'a pas envie de bosser là-dessus avec Electronic Arts. Et ils recommandent un studio qui n'est pas très loin de chez eux géographiquement, qui est...
au nord 2015. Du Texas, en Oklahoma. Voilà.
À Tulsa, une petite ville pourrave. Enfin. Et ils recommandent 2015 Inc., qui est un studio qui a fait que des petits FPS vraiment minables à l'époque. Genre... CIA Opérative, enfin
CIA Opérative.
Laser Missions, enfin des.
Oh les noms, voilà. Le rêve.
Et eux, ils disent oui, évidemment.
Évidemment, oui, on doit adapter, faire une version PC. Enfin, c'est pas adapter, c'est faire vraiment
un nouveau jeu
pour PC appelé Medal of Honor donc, et Deuxième Guerre mondiale, avec une licence qui commence à être bien connue. C'est vrai que pour un studio qui vient au milieu de l'Oklahoma, c'est un peu...
Et un gros budget.
Et un gros budget, c'est... Donc, mais on trouve donc déjà, à l'époque, chez ces gens-là, il y a déjà pas mal de monde dont on entendra parler plus tard, en fait.
Oui, il y a Jason West, il y a Vincent Bella, il y a Grant Collier, il y a beaucoup de monde qui va ensuite bosser sur Call of Duty.
Exactement. Donc, ce qui sort, c'est en 2002. Comme quoi, il y avait quand même un peu de temps à l'époque. C'est 99-2002. C'est Medal of Honor Allié d'Assault.
Débarquement allié, parce qu'on traduisait les titres.
Oui, c'est ça.
C'était un autre temps.
C'était bien le fameux avec le débarquement qui avait fait hurler tout le monde.
Voilà,
c'est génial.
C'est le débarquement qui est resté célèbre encore aujourd'hui.
D'ailleurs, le jeu a été porté sur PS2 après, non?
Non.
J'ai souvenir...
Non.
Je croyais.
Il y a eu d'autres versions PS2 qui ont repris la MSN, mais...
D'accord.
Et donc, vu que Medal of Honor, donc débarquement allié, débarque sur PC, et là, c'est un vrai gros carton.
Là, c'est enfin le vrai gros succès du FPS PC pour Electronic Arts, qui n'avait pour l'instant pas de jeu à l'époque là-dessus. Et du coup, ils se disent, c'est cool, on peut faire plein de jeux Medal of Honor, ça a bien marché. Et...
Et le coup de génie, quand même, le coup de génie, c'est on trouve un studio au plein milieu de l'Oklahoma qui sait nous faire un FPS sur PC de Deuxième Guerre mondiale qui cartonne et tout ça. On l'a trouvé gros coup de bol et ben on s'en sépare.
Voilà. Ils décident de laisser tomber 2015. Ils vont tout faire en interne à l'avenir avec Electronic Arts Los Angeles, justement, donc l'ancien DreamWorks. Et surtout des FPS consoles parce que c'est comme ça qui les intéresse à la base. Et pendant ce temps-là, 2015, il se passe des choses aussi.
Parce qu'on est en 2002, donc il y a eu ce Medal of Honor qui commence à devenir donc une des grosses licences du jeu vidéo. Et il y a quand même, bon, Electronic Arts, c'est le premier éditeur mondial à l'époque, mais il y a un petit challenger, Aircom New Challenger, qui arrive, qui s'appelle Activision.
Activision, à l'époque, édite déjà des FPS, ils ont les FPS de Raven, Dead Software, qui distribuent seulement, ils ne sont pas propriétaires, mais ils ont déjà une part du marché. Mais ils voient 2015, en tout cas les employés de 2015, qui cherche un emploi finalement, et il propose un nouveau studio.
Et en plus, par ailleurs, alors c'est vrai, je recommande quand même fortement d'acheter le livre encore une fois sur Kindle parce que tout ça c'est détaillé, parce que c'est des ramifications à n'en plus finir. Là, simplifie énormément le propos. Mais donc à l'époque, déjà Activision avait quand même fait ses courses dans les années qui précèdent en rachetant une série de studios plus ou moins éloignés du FPS. Mais on entendra parler.
Ils ont racheté Treyarch, ils ont racheté Xatrix qui avait fait Renek Rampage. Et qui va être fusionné avec Treyarch ensuite. Ils ont racheté Raven, ils ont racheté
Neversoft. Ils ont racheté Grey Matter. Donc ils sont dans la collectionnite un petit peu de studios. Et surtout, ils se sont rendus compte que le FPS est un secteur bien porteur, que ce soit console ou PC. Et ils veulent un énorme carton, pareil qu'Electronic Arts, pareil que le.
Voire mieux.
Ce serait aussi bien. Et donc arrive la licence, donc Medal of Honor, Call of Duty, Infinity Ward, voilà, Infinity, alors on n'a pas fini l'histoire, donc
Infinity Ward, enfin les employés de 2015 pour monter Infinity Ward, et en même temps ils débauchent aussi une partie de Electronic Arts Los Angeles pour monter Spark Unlimited.
Voilà, on dépouille Electronic Arts.
Voilà.
C'est l'idée. Alors sachant qu'Electronic Arts avait déjà laissé tomber 2015, donc c'est pas de souci de ce côté-là. Et c'est eux qui fondent Infinity Ward, donc côté 2015, avec, on retrouve là les noms Grand Collier, mais surtout Vince Zampella et Jason West, le grand duo dont on entendra beaucoup parler par la suite, qui viennent à la tête de Infinity Ward. Alors, c'est dans des conditions un peu spécifiques, c'est-à-dire que Infinity Ward, Activision possède 30% d'Infinity Ward au moment de la création du studio, mais avec une option d'achat des 70% qui restent au même prix, c'est-à-dire au prix où ils ont acheté les 30%.
Ils ont acheté 30%, 3 millions.
3 millions, voilà.
De dollars de l'époque. Donc pas grand-chose.
Et donc il leur suffirait de 7 millions de dollars pour acquérir l'ensemble d'Infinity Ward par la suite. Ce qu'ils ne manqueront pas de faire.
Ce qu'ils font le jour de la sortie du jeu.
Le jour de la sortie du jeu, Call of Duty qui débarque en 2003.
Novembre 2003, oui.
Et là, c'est aussi une grosse réussite.
C'est un méga carton parce que c'est comme Medal of Honor, débarquement allié, mais en plus beau, en plus réussi, en plus varié aussi parce que, il y a des camps divers, il n'y a pas seulement les Américains. Et c'est plus intéressant, d'une manière générale. Et le jeu cartonne. Et Electronic Arts en face avec des Medal of Honor assez ratés à l'époque, parce que Electronic Arts Los Angeles a été dépouillé aussi. Du coup, il n'y a pas de concurrence pour Call of Duty et ils sont assez tranquilles.
Alors pendant ce temps-là, quand même, parce que c'est important pour la suite, mais on va pas détailler, mais c'est pour vous dire qu'il y a tout qui se passe en fait dans cette époque-là, tout ce qui se passe entre quelques studios, deux éditeurs pour l'époque. Il y a un studio suédois, Digital
Illusion,
CE, qui développe Battlefield 1942, parce que Electronic Arts ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc qui lance des licences de FPS. Donc voilà, qui marche très bien, d'ailleurs. Qui marche pas mal, mais voilà, c'est pour dire que c'est aussi des licences qui sont créées à cette époque-là. Donc gros succès de Call of Duty, et là, ça va être un petit peu le bordel, parce que Activision, voilà, on a notre licence, on voulait notre licence à succès comme Medal of Honor, et donc on va essayer de faire du Call of Duty partout, tout le temps. Que ça commence en 2003 en fait,
en 2004 en fait, après 2003 il y a le FPS de Spark, donc le Call of Duty pour console, qui a beaucoup de problèmes de développement, qui est retardé, qui dépasse son budget, qui a des plein de soucis. En...
Notamment parce que Electronic Arts fait un procès à Spark, aux ex-employés de Spark. Non, aux ex-employés de EA Los Angeles qui sont partis fonder Spark pour, soi-disant, ils sont partis avec des projets, avec des technos et ce genre de choses.
Et en plus, EA rachète Criterion, qui peut être Underwear, qui est le moteur du jeu à l'époque.
Oui, c'est vrai.
Ce qui, en plus, posait problème à Activision.
Oui, donc en fait, ils changent de moteur, finalement.
Non, ils gardent le même moteur, mais ils ont plein de soucis.
Bah oui, parce que... Ouais.
Le jeu RAM, c'est un cauchemar pour eux.
Ah oui, tu racontes dans le livre qu'à un moment, c'était tellement le bordel dans le développement du Call of Duty version Spark que pour rajouter ou modifier un objet dans la liste des objets disponibles dans le jeu, ça pouvait prendre jusqu'à une semaine.
Oui.
C'est un souci. Pour
c'est un
retenir,
petit souci, absolument.
Pour tenir les délais, c'est
pas
un petit problème.
C'est pas des conditions idéales pour faire des triple A.
Ouais, non, c'est pas génial. Et donc c'est voilà, il y a ce succès et en 2004 en fait tous les studios enfin ils mettent...
en fait le jeu sort fin 2004 et juste après Activision annonce son plan pour Call of Duty pour l'avenir.
Et alors ?
Mais ce qu'il faut savoir avant c'est que fin 2004, il y a aussi eu Doom 3. Doom 3 c'est un méga succès, 5 millions de ventes quasiment en un mois. C'est que du PC à l'époque. Et Activision veut racheter id Software ou ils veulent en tout cas la licence Doom, Quake et Wolfenstein. Il leur propose une somme monstrueuse, ils proposent 90 millions de dollars, id refuse, ils proposent encore plus pour acheter id refuse encore, et c'est à partir de là qu'Activision décide de faire du Call of Duty dans tous les sens.
D'accord.
Sans ça, on aurait sans doute eu un jeu id Software par an, en fait.
Un Wolfenstein.
Doom 2006, Wolfenstein 2007.
On sera à Doom Modern Warfare. Enfin, c'est,
Et Wolfenstein Black Ops.
Et donc voilà, et donc vu qu'ils arrivent pas à... parce que oui, c'est vrai que Doom 3 avait été édité par Activision. Donc en fait, ils voulaient d'abord soit racheter les licences, donc Doom, Wolfenstein et Quake, et id reste indépendant, et dans un deuxième temps, ils proposent id 105 millions de dollars ou 150 millions de dollars en
fin. C'est 120, j'ai plus le chiffre en
120 millions de dollars. Et puis ça c'est refusé. Alors sachant que bon, on n'y reviendra pas, mais que quelques années plus tard, id est racheté par Bethesda pour
même
prix, 105 millions de dollars. Donc comme quoi, c'était
la valeur de id avait pas mal baissé entre-temps, je crois aussi.
Oui, ils n'ont pas sorti grand-chose ensuite.
Oui, ils n'ont pas sorti Rage. Voilà, c'est tout. Le truc, voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. Finalement, la grande scène commence à se jouer à ce moment-là. Infinity Ward donc devient propriété à 100% d'Activision. Mais alors, on peut être à propriété à 100% d'Activision et garder quand même une certaine indépendance, en fait.
À ce moment-là, non, parce qu'à ce moment-là, ils font Call of Duty 2, ils préparent Modern Warfare, donc le Call of Duty 4. C'est encore un studio qui appartient à Activision qui fait ce qu'on lui demande.
Alors Call of Duty 2 sort en 2005. C'est aussi un carton et arrive le moment, mais je pense qu'on va faire une pause et on va revenir là-dessus, où sort Call of Duty 3 et là c'est un peu la rupture.
Voilà, c'est le premier Call of Duty fait par Treyarch, donc qui est un autre studio d'Activision. Et c'est un jeu qui est fait uniquement sur console, sans l'accord d'Infinity Ward. Le jeu est encore en Seconde Guerre mondiale. Infinity Ward le prend assez mal, parce que pour eux, Call of Duty, c'est leur création, c'est leur truc à eux. Treyarch n'a pas à y toucher.
Ouais.
Du coup, le jeu est très bien reçu. Ils vont très bien, il n'y a pas de problème. Par contre, Infinity Ward commence à se rebeller un peu. Dans le prochain jeu, ils mettent des petites vannes sur Treyarch, ils commencent à... Il y a une sorte d'embrouille qui apparaît doucement.
Oui, c'est ça. C'est que le prochain, évidemment, ça va être, Modern Warfare, dont on va parler après. Et on voit à l'occasion de la sortie de Modern Warfare qu'ils n'ont pas super digéré le fait que le 3 leur ait
échappé.
Alors, tu racontes que l'exécutable de la version PC, c'est col3.exe.
En fait, c'est iw3sp.exe, mais c'est Infinity Ward 3.
Voilà, c'est Infinity Ward 3.exe. Et il y a aussi la chanson, le rap de fin qui dit... C'est
le troisième épisode d'Infinity Ward.
Et c'est à nous, quoi. C'est, ouais. On touche pas à Call of Duty. Donc là,
qu'il fasse ça de manière aussi ouverte quand même, quoi. Vraiment, là, pour le coup...
Et en même temps, c'est plus de l'easter egg que du... C'est pas vraiment public.
Bah oui, mais bon, tu vois quand même que du coup, si les mecs disent que c'est leur troisième... Enfin, que c'est le troisième Call of, donc le troisième jeu Infinity Ward, enfin, c'est que l'autre compte pas. Enfin, tu peux très très vite comprendre qu'il y a quand même une sale embrouille derrière, quoi.
En interne, je pense que tout le monde l'avait compris.
Ah bah oui, ça...
Tout le monde avait compris en interne. Alors, le problème, c'est qu'à ce moment-là, Call of Duty, c'est déjà... des grosses ventes, c'est déjà un truc très très important au sein d'Activision. Ça va le devenir encore plus, mais on va passer à tout autre sujet, hein, un tout autre sujet. Mais j'ai pas fait le menu au début, non, j'ai oublié complètement j'ai complètement oublié de dire de quoi on allait
mais
parler.
C'est bien,
en fait.
Ça fait une émission pleine de surprises.
Allez, une émission pleine de surprises. Donc en fait, on va passer au jeu de la semaine, Dark Souls 2.
You will die. That much is certain. You will become dark. And once the darkness has consumed you, your journey may truly begin.
On a commencé avec Demon's Souls, on a continué avec Dark Souls et Dark Souls 2, et on n'a fait qu'une seule chose, encore et encore, on est mort.
On est mort.
Vous êtes mort, vous êtes mort. Il faut s'y préparer, quand on lance Dark Souls 2, généralement c'est peut-être qu'on a joué au précédent, donc on sait un petit peu à quoi s'attendre, et effectivement, on retrouve très vite ces réflexes de venir au feu, de réapparaître au feu, et de redécouvrir tous ces ennemis qui ont respawné entre-temps, parce qu'on ne tue jamais ou très rarement des ennemis définitivement. Bref, Dark Souls 2, From Software, et on ne change pas une recette qui gagne, on l'améliore. Peut-être, enfin, ça je te laisserai en parler, Pipo, parce que tu as arpenté longuement les contrées de Dark Souls 2. Ça donne quoi alors ?
Ça donne quoi ? Est-ce qu'il faudrait peut-être pas déjà revenir très très vite sur le principe de base de Dark Souls ?
Revenons un petit peu
pour qui ne connaît pas. On joue une personne qui a été maudite hein, et qui donc a la malédiction de ne jamais pouvoir vraiment mourir. C'est-à-dire que quand cette personne meurt, elle revient à un feu de camp qui sont des petits points qu'on peut activer un peu partout dans le jeu. Et donc, bien sûr, on va essayer de comprendre ce qui se passe avec cette malédiction et d'essayer d'en triompher pour enfin vivre sa vie ou vivre sa mort, mais dans ce cas de manière un peu plus paisible. Dark Souls, donc, c'est un espèce, on va dire, un action RPG particulièrement difficile, connu et reconnu pour ça, qui a plein de petites mécaniques de gameplay qui fonctionnent très très bien les unes avec les autres. La première, je dirais que c'est celle des âmes. Quand on tue des ennemis, on gagne des âmes. Ces âmes, c'est la monnaie du jeu qui sert aussi bien à acheter des objets qu'à leveler.
Qu'à grimper de niveau, ouais.
Voilà. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on tue des ennemis, des boss, etc., on commence vraiment à beaucoup réfléchir à comment est-ce qu'on utilisera ces âmes. Est-ce qu'on a besoin de forger cette épée ? Est-ce qu'on a besoin d'acheter plutôt cet item-là ? Ou plutôt, tout bêtement, de leveler un peu la force ou la vitalité du héros, quoi.
Sachant qu'il faut très vite qu'on se pose la question, car ces âmes, on ne les garde pas forcément très très longtemps. Et le Dark Souls, ce n'est pas l'endroit où économiser.
Voilà,
Pas économiser ces âmes.
Ça, puisque, imaginons que vous venez de battre un boss, vous êtes très très fier de vous, vous avez 30 000 âmes en poche. Et sur le chemin du retour, vous mourrez. Hein. Vous faites tuer par un autre ennemi,
vous tombez d'une falaise.
Il est possible d'aller récupérer ses âmes.
C'est-à-dire qu'on meurt, on se retrouve avec zéro âme au point de respawn, qui est un feu de camp, le dernier auquel on...
On peut aller récupérer ses âmes. Il y a une petite boule verte, on va récupérer ses âmes. Pas de bol, on retombe sur le chemin. Là, le compte des âmes, il tombe à zéro.
Voilà,
et donc les 30 000 ou 40 000 ou 50 000 âmes, elles sont perdues pour toujours. Par exemple, donc ça c'est une des premières mécaniques d'une longue liste, mais... En gros, voilà, pourquoi est-ce que Dark Souls est super plébiscité par plein de joueurs ? C'est que c'est un vrai jeu difficile qui se mérite. Et ça, c'est de plus en plus rare aujourd'hui. Et il n'y a aucune mécanique qui est injuste. Bon, il y a bien des pièges un peu salauds, mais une fois qu'on les a vus une première fois, on arrive à savoir comment ça se passe. C'est du par cœur, c'est du farm, c'est connaître les zones, c'est faire attention. Les combats sont extraordinaires puisque tout est question de placement et de timing. D'ailleurs, la plupart des gros joueurs font le jeu à poil, sans armure, avec juste une arme, quoi. Donc, il faut vraiment apprendre à se placer, à repérer les patterns des ennemis. Il y a un côté presque shoot 'em up old school, à regarder le boss faire ses patterns avant de commencer à essayer de l'attaquer. Enfin, voilà, il y a quelque chose d'extrêmement satisfaisant à ce niveau-là. Et tout le gameplay se construit autour de cette idée d'avancer, de combattre, d'essayer de voir les ennemis. Enfin, c'est un jeu qui se mérite, quoi.
C'est un jeu d'apprentissage. On fait une zone et quand on arrive à la fin de la zone, on est mort tellement de fois entre le début et la fin de la zone qu'on la connaît effectivement par cœur.
C'est ça.
C'était le principe de Dark Souls où moi je me souviens que je connaissais entre le feu de camp du départ et l'endroit le plus lointain où j'étais allé dans le jeu. Je ne me rappelle plus si c'était une église ou un truc comme ça. Enfin bon, bref. Je connaissais tout par cœur. C'est-à-dire que j'avais tellement fait de fois le chemin
pour aller d'un point à un point.
Alors évidemment, on vous rassure ceux qui ne connaissent pas, arrive un moment où on débloque des raccourcis.
Bien
c'est-à-dire
sûr.
Qu'on n'est pas obligé de tout refaire, tout faire l'intégralité du parcours, parce que ce sera un petit peu long à chaque
fois. D'autant plus pratique que dans Dark Souls 2 maintenant, parmi toutes les nouveautés, il y en a une qui est la téléportation entre les feux de camp, qu'on ne débloquait que très très loin dans Dark Souls 1. Là, on l'a dès le début, et c'est, étonnamment, ça ne casse pas le plaisir de l'exploration, puisqu'il faut quand même trouver le feu de camp auquel on va se téléporter, c'est déjà ça, c'est une sacrée paire de manches. Mais quand bien même, il y a... Ça fluidifie énormément l'exploration, ça rend le jeu plus facile et c'est vraiment une très très bonne idée d'avoir fait ça. Et il y a d'ailleurs, il y avait une énorme polémique à l'annonce de Dark Souls 2 puisque les créateurs du jeu annonçaient vouloir le rendre plus accessible.
Ah ça, alors, c'est des gros mots hein, pour les joueurs de Dark Souls. Accessible est un gros mot.
Ah bah là, il y a plusieurs forums qui ont pris feu simultanément. les mecs disaient mais c'est quoi ce truc? On va transformer mon jeu en licence de casu, etc. Sauf que non, le jeu, au-delà de sa difficulté, Dark Souls 1 avait un vrai problème, c'est que les choses étaient jamais ou mal expliquées. Et autant crever parce qu'il y a trois zombies sur moi et que j'arrive pas à gérer le combat, pas de souci. Crever parce qu'un boss m'empale et que c'est à moi de faire gaffe, pas de souci. Crever parce qu'un item est mal expliqué et que là où je croyais qu'il allait me refiler de la vie, et ben en fait il m'empoisonne ou que sais-je, ça me fait déjà moins marrer. Et eux en fait ont vraiment travaillé là-dessus, sur l'accessibilité pure et dure, mais sans jamais oublier la difficulté. Et c'est ça qui est très très bien, ils ont vraiment réussi à donner ça très correctement. Et du coup, donc, dans les nouveaux...
Après Dark Souls 2, alors je suis d'accord avec toi que Dark Souls 1 était péniblement pas bavard du tout. C'est-à-dire qu'on était vraiment... On était projeté dans un monde que, finalement, il fallait peut-être avoir fini le jeu deux fois pour comprendre un petit peu la logique qui gérait l'ensemble de l'univers. Mais moi, ça, j'ai pas fini le jeu une fois.
Ça ajoutait aussi, mine de rien, à cette espèce d'hostilité de du monde du jeu. Quoi.
Non, tout à fait.
Effectivement,
on se
sentait vraiment étranger dans le truc.
Alors, en contrepartie, Dark Souls 2 n'est pas devenu bavard pour autant. Hein.
Ah non.
On est encore dans une relative inconnue. On ne sait pas encore trop où on va. Il n'y a pas de map. Il n'y a pas de GPS. Il n'y a pas de GPS pour te dire où tu vas. Il n'y a pas d'objectif indiqué clairement sur la map. Aller par ici. Voilà, on est dans.
Et à noter d'ailleurs que comme dans Dark Souls 1, c'est un monde ouvert et qu'on peut très bien, par erreur, se retrouver dans des zones super high level alors qu'on joue depuis une demi-heure.
C'est ça.
Enfin, tu peux te retrouver contre un boss que t'es pas censé exploser avant 15 heures de jeu et te retrouver devant au bout d'une demi-heure et te faire.
Et mourir.
Ouais, tu te fais de la télé là. Oui.
Bah, oui, soyons clairs. C'est un jeu aussi qui est difficile, c'est vrai, mais une autre de ses marques de fabrique, c'est qu'il est difficile car il est exigeant, notamment sur les combats. Enfin, les combats, c'est quand même le cœur du jeu, c'est ça, c'est les rencontres. Et avec cette particularité, c'est qu'on peut être niveau 14, on peut encore se faire latter par un monstre lambda niveau 1, en tout cas, pas s'ils sont à 2 ou 3.
Tout comme en
si
étant
on fait
niveau
pas gaffe,
1, on peut se faire le boss de fin si on joue bien. Voilà, ouais, ça marche dans les
temps.
Deux sens. Ça peut prendre du temps, mais ça marche dans les deux sens, vraiment. Ouais. C'est-à-dire que un joueur très expérimenté, on le lâche devant des boss de fin à poil avec une dague niveau 1, il peut le tuer.
D'accord. Et c'est ça, pas mon cas.
Ça, on est loin de des autres RPG classiques à ce niveau-là, quoi.
Il n'y a pas de flingue dans le jeu.
Non, je suis désolé.
Ça t'intéresse pas. Mais
aucun intérêt.
Non. Et donc, en fait, après, il y a les stratégies. Donc, tu en as parlé du parade, bouclier. Alors, il y a deux indicateurs qui sont les deux indicateurs les plus importants. C'est effectivement la barre de vie et deuxième indicateur, la barre d'énergie, d'endurance. C'est celle qui baisse quand on fait une esquive, quand on donne un coup. C'est pour ça qu'on peut pas taper comme un malade de façon ininterrompue,
parce qu'arrive
un moment où la barre d'endurance arrive à zéro et elle va se recharger petit à petit. Et donc, quand on n'a plus d'esquive en stock, et ben on est quand même salement
mal. En fait, les deux grosses manières de ne pas trop se faire tuer dans le jeu, c'est un, parer avec le bouclier, deux, esquiver, effectivement, faire une roulade. Quand tu pars un coup avec le bouclier, selon la puissance du coup de l'adversaire, il va t'enlever plus ou moins d'énergie, donc de stamina, pas de vie. Pas de bol, quand la stamina est à zéro et qu'on part un coup, on se retrouve avec la garde cassée, les bras en croix, prêt à prendre un coup d'épée. Et ça, c'est juste la situation dans laquelle on ne veut jamais se retrouver. Donc, il faut toujours garder un petit peu de stamina pour faire une roulade, pour tenter de s'échapper, tout en essayant quand même de mettre des coups d'épée au boss ou à l'adversaire, parce que ça reste le but du jeu. Et donc, voilà, tout va se jouer dans la gestion des distances, des coups de l'adversaire, de ses propres coups, parce que quand on a une nouvelle arme, il faut apprendre à l'utiliser. puisque les armes sont en trois catégories, quatre si on compte les armes de jet, mais les armes, les épées, etc. sont en trois catégories qui sont tranche, frappe et estoc. Et le jeu voit vraiment ces trois choses-là comme trois manières de jouer différentes, et un coup de tranche ne fera pas la même chose sur tel ou tel ennemi, un coup d'estoc non plus, etc. Et donc il faut vraiment calculer ça, calculer dans quel sens part notre coup et jusqu'où il va, des choses comme ça. Et donc chaque nouvelle arme, c'est vraiment une nouvelle chose à apprendre. Et d'ailleurs, contrairement à la plupart des RPG classiques, il y a une chose que je trouve géniale, c'est que dans ce jeu-là, quand t'as une épée et que t'as pas assez de force, cette épée nécessite 16 de force et toi t'as 12, tu peux quand même l'utiliser. Sauf que les animations seront vachement plus lentes. Donc il y a des animations spéciales pour quand tu utilises une arme que t'es pas censé utiliser. Ça prend plus de stamina, et donc voilà. Mais tu peux. Si un jour tu veux prendre cette gigantesque épée, mais que ton perso c'est une crevette, et ben tu peux. Essaye, vas-y, hein, tu vas te marrer, mais c'est faisable. Et juste ça, donner cette liberté aux joueurs. Pareil pour le leveling. Le jeu propose de prendre une classe au début, que ce soit magicien, ouais, voleur, etc. Ça n'a absolument aucune incidence en fait sur le jeu. Ça change les stats de départ, forcément. Donc un voleur aura une plus grande agilité, un guerrier plus de force, etc. Mais en fait, le leveling se fait au coup par coup. On ajoute un point dans la catégorie qu'on veut.
Ouais.
C'est-à-dire que très vite, moi, si j'ai commencé un mage et qu'en fait je vais en faire un guerrier, je peux. Ou si j'ai fait un clair et que je veux en faire un voleur, je peux. On peut très très vite se créer les builds qu'on veut pour son perso et se faire vraiment un perso à son image. Et c'est ça qui est super intéressant aussi. C'est que tu levels toi en tant que joueur en même temps que ton avatar dans le jeu en fait.
Quand ton perso... Tu gagnes du skill.
C'est exactement ça, voilà.
En même temps que ton perso gagne de la puissance.
Et c'est super satisfaisant parce que t'as vraiment l'impression d'évoluer en même temps que ton perso. Et il y a une synergie entre toi et ton perso pendant tout le jeu qui rend... il y a quelque chose de fluide, d'incroyablement fluide dans
parce qu'on a parlé un petit peu quand même de l'aspect exigeant, l'aspect difficile de Dark Souls 2, mais la contrepartie, et il y a cette contrepartie, et c'est finalement ce qui fait son sel et ce qui a généré ce succès quand même relativement incroyable pour une licence comme ça, pour une licence aussi rude, aride que Dark Souls.
C'est super étonnant, mais c'est une super nouvelle.
Austère, voilà, c'est ça.
C'est assez austère.
Et c'est que ça génère une satisfaction et un sentiment de récompense, de victoire qui est vraiment inédit à ce niveau-là dans le jeu vidéo. C'est que quand on arrive à battre un boss, quand on arrive à avancer, à parcourir, à découvrir un nouveau feu, à avoir, avoir traversé une zone, eh ben, on a une vraie impression d'avoir passé un cap, une victoire à son compte.
Après avoir passé 20 essais sur un boss et l'avoir tué, la récompense, c'est pas les 30 ou 40 000 âmes, c'est pas le coffre qui est derrière, hein. C'est juste d'avoir battu ce salopard de monstre, quoi. Enfin, c'est exactement ça.
Alors, les auditeurs de Silence on Joue le savent parce que le sujet consacré à Dark Souls 1 était encore vivant jusqu'à la semaine dernière. Hein.
Mais c'est la semaine dernière
qu'ils ont créé un forum sur Dark Souls 2.
Je suis fier de vous, les gars.
Chacun raconte son aventure, et c'est vrai qu'une victoire dans Dark Souls, on a envie de la raconter, on a envie de la partager.
Mais tu vois, par exemple, une fois que t'as battu un boss, tu te dis, est-ce que je retourne à mon feu de camp pour dépenser mes âmes? Il a joué safe. Est-ce que je continue? Parce que peut-être que finalement, le prochain feu de camp est pas si loin. Et le jeu, c'est constamment des choix comme ça que tu vas faire, et à chaque nouvelle pièce, tu pèses le pour et le contre de juste, est-ce que je mets un pied dans cette pièce? Le reste, c'est même pas d'actualité, le reste, les monstres, les boss, les machins. Déjà, est-ce que j'ai envie de mettre le pied dans cette pièce ou est-ce qu'il faut que je fasse autre chose? Quand on arrive au point où le moindre pas du jeu, tu dois le peser, c'est fantastique. Enfin,
c'est vrai que ça donne quelque chose de mémorable. On va parler un peu de l'ambiance, enfin rapidement de l'ambiance de Dark Souls, parce que c'est aussi quelque chose qui m'étonne, parce que je trouve que c'est pas l'univers du meilleur goût que j'ai rencontré.
Parce que on est dark fantasy.
Voilà, on est dans la dark fantasy, dans le gothique, un petit peu.
Le gloctique, même. On pourrait dire.
Mais en fait, c'est tellement pas surappuyé, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on est dans le gothique, mais on n'est pas non plus dans Bayonetta ou dans ce genre de déguisement. On est dans quelque chose qui est léger. On est à la limite de la poésie noire, qui avec des références médiévales fantasy, donc assez classique. Mais il y a l'aspect univers, l'aspect scénario est tellement secondaire. Enfin, c'est une toile de fond en fait. J'ai l'impression que c'est une toile de fond au jeu lui-même, et que d'un côté il y a le joueur qui va se raconter sa propre aventure, qui va raconter ses propres exploits, qui va s'imaginer son propre scénario du jeu, mm-hmm. parce que finalement c'est celui qu'il vit, et il y a le scénario en tant que tel qui sert de toile de fond à cette progression-là. Enfin, moi, c'est vraiment l'impression que j'avais sur Dark Souls.
Dit comme ça, je suis assez d'accord effectivement de voir qu'il y a finalement deux histoires qui se font en parallèle, celle du jeu et celle que toi tu te fais avec le jeu. Ça, c'est très très vrai. En revanche, non, Dark Souls 2, là, comme Dark Souls 1, la qualité de l'écriture, en un sens, elle est qu'il n'y a pas d'écriture à proprement parler qu'on te jette dans la gueule au début avec un gros trailer, un machin, une cinématique. Non, en fait, tout passe par des bouts de dialogue, des descriptions d'équipements, des choses dans le décor. C'est beaucoup plus fin, en fait. Et j'étais le premier surpris de voir, en fait, que dans Dark Souls 1, parce qu'on n'a pas encore d'ailleurs démêlé tout ce qui se passe dans le scénario du 2, mais déjà dans le scénario du 1, en fait, c'était un truc de dingue, avec tel roi qui était devenu fou, et son fils qui se prenait pour une fille, et qui a donc créé trois illusions de lui-même dans le royaume, pour machin. Enfin, en fait, c'est un truc de dingue qui n'est jamais expliqué concrètement dans le jeu. C'est que des indices à droite à gauche, ce qui te permettent à la fin, quand tu mets toutes les pièces ensemble, d'avoir le scénario du jeu.
Une fois que t'as fini le jeu deux fois.
Ah, facile, au moins.
Ouais, c'est ça. C'est...
et après, en revanche, en termes d'ambiance, moi, je suis désolé, mais cette direction artistique, je la trouve extraordinaire. Et comme dans le premier, il y a un côté désolé tout le temps. Tu te sens seul. Il n'y a rien qui t'aime, il n'y a rien qui est avec toi.
Justement, c'est là où je trouve que ce n'est pas la direction artistique la plus subtile de l'univers. C'est-à-dire qu'on va dans le désespoir, on y reste, on est dans le noir, dans le glauque, dans le sombre, dans le désespoir, dans la mort, dans les pleurs, dans les larmes qui tombent sur la nuit noire, et quand il y a la pleine lune qui a son reflet sur la mer rougeoyante. Enfin bon, à un moment, oui, d'accord, ça crée une homogénéité artistique, je suis d'accord.
Déjà, tu prends Dark Souls 1, t'avais des ennemis qui étaient des champignons géants qui te mettaient des patates, t'avais un papillon gigantesque qui t'envoyait des lasers. Enfin, c'est pas que des chevaliers et des dragons, hein. Non, ça va un peu plus loin, et ils continuent de chercher, de trouver des idées d'ennemis un peu différents... Je suis pas d'accord pour le coup.
Bon, en tout cas, une belle réussite dans la lignée du 1. Enfin,
voilà. Et puis une leçon de level design, de mécanique de gameplay. Enfin, il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, je pense que les gens du forum Dark Souls 2, enfin du Topic, vont sûrement me taper dessus en disant que j'ai oublié plein de choses.
Mais oui, mais on n'a pas non plus 2 heures. Et je ferai remarquer que la dernière fois, on a mis quand même 6 mois pour parler du premier Dark Souls après sa sortie.
Alors là, on est dans les temps.
Cette fois-ci, on est un peu plus dans le timing. On va revenir tout à l'heure sur Call of Duty, mais c'est le moment d'accueillir Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de Société. Bonjour Monsieur Fall.
Bonjour mon cher Erwan. Cette semaine, je vous propose de visiter Bruges. Oui, encore un jeu avec un nom de ville, parce que c'est international et ça marche dans tous les pays du monde. On ne s'embête pas à la traduction. Ce jeu est signé Stefan Feld. Il est édité en français par Philosophia. C'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 60 minutes. Stefan Feld n'est pas un inconnu dans le monde ludique. C'est un spécialiste du jeu à l'allemande, un peu velu, mais parfois familial. Un truc avec des ressources et de la gestion. Et Bruges ne déroge pas à cette règle. C'est un jeu semi-familial de type quand même velu. C'est entre le gros jeu et le jeu moyen. Enfin, il y a plein de choses à l'intérieur. C'est un jeu essentiellement de cartes, mais pas que, puisqu'il y a un plateau sur lequel vous allez bouger des pièces, vous allez vous installer un peu à droite et à gauche. On pourrait dire que c'est un jeu de carto, un mélange de jeu de cartes et de plateau. Alors, je ne vais pas vous expliquer la règle parce qu'elle est un peu touffue. Il y a plein de choses à faire à l'intérieur. Sachez simplement que ce jeu est assez simple et limpide. Il va falloir un petit peu d'adaptation au départ parce que c'est un jeu de cartes. Il y a des pioches. Vous allez décider à votre tour dans quelle pioche vous allez choisir, puisqu'en fonction des couleurs des cartes, vous voyez le dessus des paquets, vous allez prendre telle couleur ou telle autre couleur, puisque vous piochez à l'aveugle, n'est-ce pas ? Mais ce sont des dés que vous allez jeter sur le plateau qui vont indiquer ce que vos cartes vont pouvoir faire, parce que les dés ont la couleur des cartes. Donc vous allez jeter des dés, peut-être que le dé violet va indiquer 2, mais votre carte violette que vous avez en main, 2, c'est pas assez pour vous, vous auriez préféré un 4 ou un 5, donc vous allez attendre le tour d'appel, enfin bref. Voilà l'idée générale, vous abattez vos cartes, vous faites ce qui est écrit dessus, vous allez vous positionner, comme d'habitude, hein, c'est un vieux Bruges, et vous allez tenter de devenir le plus célèbre, le plus riche, le plus aimé de la ville en fabriquant des choses, des canaux, des machins, des trucs. À la fin, celui qui a le plus de points de victoire est déclaré grand joueur. Sachez que Bruges, c'est assez fin, il faut un petit peu de temps de maîtrise, mais une fois qu'on a compris, ça va vite, c'est des pictos, ça va, c'est assez rapide à comprendre. C'est fin, plein de subtilités, les parties se suivent et ne se ressemblent pas, puisque c'est du tirage de cartes et du tirage de dés en fonction de ce que vous avez, des combinaisons que vous allez mettre en place. Il y a énormément de cartes, vous êtes tenté de les combiner ensemble, vous passez un très bon moment, en tout cas c'est mon cas, Bruges correspond exactement à ce que j'aime, Stefan Feld est extrêmement fort, je vous le conseille si vous aimez les jeux un petit peu velus, mais pas trop, parce que quand même c'est assez rapide, hein, 60 minutes, mais attention, hein, c'est quand même un jeu un peu, vous allez un peu avoir mal à la tête, hein, je vous le redis. Bruges, c'est un jeu signé Steffenfeld pour 2 à 4 joueurs, à partir, disons, pour des parties de 60 minutes. C'est édité par Philosophia, ça va vous coûter autour de 40-45 euros. Le jeu est bien plein, il y a énormément de matériel, des plateaux, des pions, des dés et des cartes. Et mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv. Pipo Montis me faisait remarquer l'air atterré. On n'a pas parlé du multi, on va se faire taper dessus. Oui, bah, comme dans Dark Souls, le premier du nom, on retrouve une version multijoueur avec la possibilité d'envahir les mondes des autres joueurs, de laisser des messages qui peuvent être des pièges, qui peuvent être des indications.
On peut se faire aider aussi contre certains boss.
Il y a une dimension éminemment online à Dark Souls.
On est seul avec les autres. C'est un peu ça, Dark Souls.
Exactement. Et pour le coup, c'était depuis Demon's Souls, c'était aussi une des caractéristiques du tout premier de la série. Minute culturelle, version Jérémy Israël, avec la minute culturelle du Bechdel test. Et alors, la minute culturelle du test de Bechdel, c'est quoi le test de Bechdel? C'est pour savoir si une œuvre représente de manière correcte les femmes, en fait, les personnages féminins. Et le test de Bechdel, alors on l'avait déjà évoqué avec Kalash. Alors il faut savoir que je vous le dis, hein, c'est quoi le test de Bechdel? Il y a 3 critères pour que une œuvre, alors et ça s'applique au film, hein, d'habitude, pour qu'une œuvre réussisse le test de Bechdel, il faut qu'il remplisse 3 critères, qu'il y ait 2 femmes qui portent un nom. Deuxième point, qu'elles parlent ensemble. Et troisième point, qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme. Alors on se dit, c'est pas si compliqué que ça d'avoir deux personnages féminins avec un nom, qu'elles se retrouvent à parler ensemble et qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme. Et bien on se rend compte que la majorité de la production hollywoodienne ne passe pas ce test-là. Et ça ne dit pas si un film est féministe ou sexiste ou quoi que ce soit. C'est juste une question de représentation des personnages féminins. Et en fait, Jérémy Israël s'est intéressé. Est-ce qu'il y a des jeux vidéo? Est-ce que dans les jeux vidéo, lesquels passent ou non le test de Bechdel? Alors, sachant que c'est sujet à, évidemment, à interprétation, parce qu'on est dans des œuvres interactives, on est dans ce genre de choses.
C'est très, très facile de créer un perso féminin.
Il y a beaucoup d'embranchements, de contenu narratif complexe dans certains jeux. Il est possible que des erreurs se soient glissées dans la liste. Donc, vous pouvez, si vous êtes opposé à la réponse, dire. Quand le test de Bechdel est discutable pour un jeu, ce n'est pas bon signe. Voilà, sauf Tetris, peut-être. donc, on va commencer. Donc, je vais donner des jeux et vous me dites oui ou non. Voilà.
Ok.
BioShock Infinite.
J'y pensais, justement.
Non.
Je dirais oui.
Eh bien, non, il ne passe pas le test de Bechdel.
Parce que quand Elisabeth parle avec... La chef de la résistance, là, non? Bon, d'accord, peut-être.
Est-ce qu'elles parlent vraiment ensemble?
Très bien.
Deus Ex Human Revolution.
Non.
Non plus.
Incroyable. Mais pareil, je me disais qu'au moins, dans un des différents bars du jeu, on verrait peut-être deux femmes en train de parler, en train de boire un verre, j'en sais rien.
Super Brothers Sword and Sorcery.
Ah, Nets?
Je dirais oui, mais je suis pas sûr.
Eh bien oui, parce que
c'est l'héroïne d'une femme.
Voilà. Et en fait, Skitian donc reçoit une quête de la part d'une fille du village. Alan Wake.
Non.
Eh bien si, Alan Wake passe le test de Bechdel avec Cynthia Weaver.
Moi, je réponds moi.
Et Sarah Breaker qui parle entre elles.
Je ne savais même pas qu'il y avait plus d'un personnage féminin dans Alan Wake, je dois l'avouer.
C'est vrai. Resident Evil 3.
Joker.
Le 3, j'ai envie de dire oui, mais je crois que c'est un piège et je crois limite que l'héroïne qu'on joue, puisqu'on joue une femme, est limite le seul personnage féminin du jeu, je crois.
Effectivement, non, ça ne passe pas le test. Ouais. Resident Evil 4.
Joker toujours
Non plus.
Non plus.
Non plus, il n'y a que Ada qui est...
Persona 4.
Oui, à fond.
Ah, la palme d'or du test de Bechdel. Kingdom Hearts. Hearts. Kingdom.
Bon, je dirais oui, avec tous les personnages de Mickey. Il y a bien Ariel qui doit parler avec une des héroïnes.
Bien non.
Ah oui.
Far Cry 3.
Non.
Eh bien oui, mais à peine. Il doit y avoir un dialogue peut-être entre deux personnages féminins au fin fond d'une map ou dans un train ou dans une cinématique. Dead or Alive 5.
Oui.
Bah oui. Sans problème. Alors, ça ne veut pas dire que les jeux sont féministes. Hein.
Ah oui, non, voilà. Mais elle parle de volleyball, elle ne parle pas d'hommes.
Peut-être. Doom 1.
Non.
Non. On ne connaît pas le genre des monstres dans Doom.
Donc, oui, mais ils ne se parlent pas.
Mais ils ne parlent pas, ouais, effectivement.
Doom 2.
Non.
Non. Doom 3.
Non.
Alors là, c'est là où il dit « Oui, techniquement, on peut lire un email où deux femmes sont en correspondance. »
Ah mais d'accord, mais...
Ah bah voilà.
Mais bon. Bayonetta.
Oui.
Bah oui. Bayonetta et Jeanne qui parlent tout le temps de leur vie. Civilisation 4.
Avec oui, leader, si, peut-être,
si,
ouais,
si,
mais...
Si, parce que du coup, si tu es une femme et que tu joues à Civilisation, quand tu parles à des conseillers féminins, eh ben, tu
en fait,
de...
l'exemple, c'était plutôt effectivement dans les lignées de Netz, c'était que Catherine II de Russie menace la reine Elisabeth.
Oui, voilà, donc, c'est ça.
C'est,
oui.
Voilà, c'est... On peut dire qu'effectivement, oui. Et enfin, Ocarina of Time, Majora's Mark, Wind Waker, Twilight Princess ou Skyward Sword.
Non.
Eh bien, non, pas du tout. Donc, on voit bien que le test de Bechdel n'est pas forcément n'a pas forcément plus de réussite dans le jeu vidéo que dans le cinéma. Et on va continuer avec Call of Duty. On avait écouté le...
Qui ne passe pas non plus le test de Bechdel.
Qui ne sont pas ça,
non, là, vraiment pas.
Vraiment
là,
pas
c'est le test. C'est des moustachus de... entre eux qui parlent de moustaches.
C'est ça. On avait vu la... on avait écouté le trailer de... du tout premier Call of Duty. Et là, on passe au trailer de Call of Duty Modern Warfare. Alors, je sais plus si c'est le 2 ou le 1. Je crois que c'est le 2. Quand même que les budgets ont augmenté rien que dans l'utilisation du trailer.
Mais je suis en train de me dire que je crois que finalement les deux seules choses que je trouve bonnes sorties de tout Modern Warfare, c'est juste deux morceaux d'Eminem en fait. C'est un peu gênant.
C'est un peu gênant. On est à la sortie de Modern Warfare, de Call of Duty Modern Warfare. Call of Duty Modern Warfare, c'est un peu l'explosion, le début de la consécration d'Infinity Ward.
Bah c'est vrai que ça passe à 13 millions de ventes, ce qui est un énorme carton dans le monde du AAA. Même dans le jeu vidéo en général. Et c'est là quoi, il passe dans un FPS moderne, contemporain. Et c'est là qu'enfin, ils ont enfin du succès partout. Tout le monde veut ça.
C'est surtout
tout le monde les copie.
Succès critique, succès populaire et succès financier. Et Infinity Ward commence à avoir une importance un tout petit peu capitale pour Activision, surtout dans cette période où on est en 2007 et où Activision va pas rester tout seul.
Voilà, fin décembre 2007, ils annoncent le rachat de Vivendi Games, donc la branche jeux vidéo de Vivendi, qui contient Blizzard et Sierra à l'époque. Et pour finaliser le rachat, ils ont besoin de s'assurer la présence des stars d'Activision. Donc ça va être West et Zampella, les patrons de Infinity Ward, qui vont renégocier le contrat qu'ils avaient avec Activision à l'époque.
Et c'est là où ils se font racheter par Vivendi aussi.
En fait, Vivendi possède une partie d'Activision Blizzard.
Oui, c'est ça.
C'est un montage complexe au final, mais Activision Blizzard appartenait en partie à Vivendi, mais possédait Vivendi Games.
Oui, c'est un montage complexe qui a permis quand même de dire dans certains documents qu'on lisait un peu rapidement que le plus grand éditeur de jeux vidéo au monde était français.
Alors que pas vraiment.
Non, mais il y avait dans des rapports financiers, on lisait ça quand même. Hein, alors que pas vraiment. Mais donc il y avait ce montage-là, et pour s'assurer de ce montage-là, il fallait absolument que Activision garde Infinity Ward et plus que ça garde les patrons et les forces créatives d'Infinity Ward.
Et donc pour ça, ils ont renégocié les contrats. Et comme Infinity Ward n'était pas hyper content à l'époque avec Treyarch et tout ça, ils ont fait le forcing. Ils ont fait annuler deux projets de Call of Duty qui étaient en développement dans le studio d'Activision à l'époque. Ils ont demandé le contrôle de la marque Modern Warfare.
C'est-à-dire pas de la marque Call of Duty, mais de la marque Modern Warfare.
Voilà, qui venait de sortir. Et ils ont obtenu ça. Ils ont obtenu de travailler sur une nouvelle licence après Modern Warfare 2, donc à partir de 2009.
Ils voulaient faire un FPS futuriste.
Voilà. Et ils ont obtenu des nouvelles royalties sur les futurs jeux.
Ça va avoir son importance par la suite.
Et il, sur le contrat, il y a quand même une légère remarque, c'est que le contrat n'est valable que tant que West et Zampella sont à Infinity Ward.
C'est ça. C'est autrement voilà. Les caducs. Alors, c'est un petit peu là, les choses s'accélèrent. On est aussi dans, donc, directement après Modern Warfare, il y a le développement de Modern Warfare 2 qui se lance. Sachant qu'entre les deux, vu que Activision est sur une logique de un Call of Duty par an, il y a World of War qui.
De Treyarch.
Parce que, alors, Treyarch, c'est un peu tu les appelles les bons petits soldats, quoi.
Voilà.
On fait ce qu'on nous dit. Voilà, c'est. On n'a pas de personnalité, on fait ce qu'on nous dit. On sait qui bosse à Treyarch. Il n'y a pas
de nom qui ressort. Enfin, on a les crédits de chaque jeu, mais il n'y a pas de nom qui ressort. Enfin, qui ne starise personne là-bas.
Ouais, c'est
une usine.
C'est une usine, l'usine Treyarch. Donc, il fait World of War, qui est un sous Call of Duty, surtout après Modern Warfare. On repart dans le passé. Ah oui, parce qu'en fait, c'est ça. C'est que aussi Infinity Ward, ils avaient non seulement Modern Warfare, mais avec Modern Warfare, ils avaient l'intégralité de tous les Call of Duty qui se passaient dans le présent. Ou dans le futur.
Après la guerre du Vietnam ou dans le futur.
Après la guerre du Vietnam ou dans le futur. Donc World at War se passe avant. Donc.
Voilà.
Et c'est pas génial, mais arrive. Alors on a parlé du premier carton Modern Warfare 1. Arrive Modern Warfare 2. Et là c'est l'explosion parce que ça double pratiquement les chiffres de Modern Warfare 1.
Plus gros, je pense qu'ils sont à 20 millions d'unités au total. C'est un méga succès.
C'est des chiffres qui, même aujourd'hui encore, ont l'air aberrants, le truc. Quoi.
C'est aberrant, surtout que c'est le jeu qui a la scène scandaleuse avec le niveau de Norushan.
Ah oui, exact. Mmh.
Où tu tuais des gens dans l'aéroport.
Ouais.
Donc c'est absurde comme succès.
Ouais, c'est fou. C'est absurde, mais ça surcartonne. Avec, il faut le dire, voilà, c'est quand même des jeux qui ont des accueils critiques quand même relativement, même très très enthousiastes, et un mode multijoueur qui est très très populaire. C'est-à-dire qu'on joue à Call of Duty, on y joue des mois et des mois, on y joue même jusqu'à la sortie du
prochain.
En fait.
Ouais.
Il y a vraiment une communauté très très forte sur les Call of Duty. Mais quand sort ce Call of Duty Modern Warfare 2, finalement, le sort d'Infinity Wars, en tout cas le sort de Vince Vantella et de
Jason West,
est déjà scellé. En fait. C'est ce que tu racontes. Alors, c'est tellement compliqué que finalement, dans ton livre, il y a des allers-retours parce qu'il y a des choses qui se passent en mars après la sortie de Modern Warfare 2. Donc, on est en 2010.
Oui.
Mais en fait, on se rend compte que les choses étaient déjà scellées avant même la sortie de Modern Warfare 2.
En fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'été 2009, donc avant la sortie du jeu, Activision en a marre de West et Zampella. Ils cherchent à les virer par tous les moyens possibles. Ils les font espionner.
Ouais.
Ils mettent des micros dans les bureaux, ils saisissent les disques durs.
Il y a même un mec engagé spécialement pour ça. C'est ça son job. Première mission, espionne West et Zampella. Deuxième mission, te fais pas choper, en fait.
Voilà, c'est ça.
Ouais, c'est...
Et en parallèle, West et Zampella, eux, en ont marre d'Activision.
Mmh.
Et via leur agent, ils ont un agent hollywoodien. Via leur agent, ils vont voir Electronic Arts en jet privé en Californie et ils leur proposent de monter un nouveau studio, comme ils avaient fait à l'époque.
Ouais, on reprend les mêmes et on recommence. Alors il y avait ce petit passage, je raconte ces anecdotes qui sont complètement hallucinantes, c'est que l'espion en question a quand même arrangé pour faire un exercice incendie à Infinity Ward pour avoir assez de temps pour choper les disques durs, pour choper le contenu des disques durs de Zampella et West. Hein. Enfin, on est dans ce genre de truc espionnel.
C'est tactique et bien espionnel.
Ouais, voilà. Ouais. Et donc voilà, ils espionnent, mais en même temps, il y avait de quoi espionner, entre guillemets.
Voilà.
C'est pas beau comme phrase, parce que dans cette période de NSA et tout ça, c'est pas forcément...
Il n'y
a aucune justification à ce type de comportement. Mais en tout cas, ils espionnent et ils trouvent des choses.
Par exemple, tout le monde se trahit en même temps.
Oui, tout le monde se trahit en même temps, oui, c'est ça.
Et du coup, en mars 2010, Activision licencie West et Zampella pour insubordination.
Mais à grand coup de pied dans le cul.
Voilà. Alors à l'époque, tout le monde est scandalisé parce que voilà, c'est Infinity Ward, ils viennent sortir un gros jeu, c'est un gros succès. Et quand sort l'affaire de West Zampella qui vont voir Electronic Arts, effectivement, ça, on comprend mieux.
Mm.
Et de fait, juste après, ils montent Respawn, donc en avril 2010, qui est chez Electronic Arts.
Ouais. Mais il y a quand même des choses qui restent. C'est-à-dire que c'est là où commence une série de procès complètement incroyables, dont aucun n'ira jusque devant le tribunal, hein, par ailleurs. Mais d'affaires. Alors, en fait, il devait reverser quand même une sacrée somme de royalties aux salariés d'Infinity Wards. Surtout que Modern Warfare 2, on l'a dit, c'est plus de 20 millions d'unités vendues. Donc, des royalties, il y en a quand même un sacré paquet à verser. Sauf que dans le contrat, il a dit « Mais c'est que tant que Sampella et West sont à la tête d'Infinity Wards. »
Voilà. Du coup, il n'y a pas de royalties qui sont versées. Activision dit que tout est normal, que ce n'est pas un problème, que si les employés restent dans le studio, leurs royalties seront versées finalement. Donc c'est un chantage.
Alors qu'il n'y a ça dans les conditions. Elles, voilà. Ils ne sont pas obligés de rester dans le studio.
Est-ce que ce n'était pas au même moment qu'il y avait eu les extraordinaires sorties de Bobby Kotick sur le fait qu'une entreprise fonctionne quand même mieux quand les employés ont peur et qu'il faut retirer tout
C'était un peu avant.
Ouais, mais ça, je trouve que ça faisait un écho à l'époque assez étonnant quand Kotick disait publiquement, ou à ses actionnaires en tout cas, « Je pense qu'il faut enlever tout le fun du processus de création du jeu vidéo et faire peur aux gens pour qu'ils bossent mieux ». Waouh, quoi, oui, ça fait un écho un peu étrange.
Quand tu lis les mails des dirigeants d'Activision qui sont dans le procès, tu vois qu'ils sont là, il faut virer ces fils de pute, quoi.
Oh la vache!
C'est ça déconne pas.
C'est les hommes à abattre, quoi, vraiment.
Ouais, et c'est pas joli. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un procès des salariés d'Infinity Wars contre Activision. Il y a un procès d'Activision contre West et Zampella.
Et contre Electronic Arts.
Et contre Electronic Arts pour avoir créé ce studio. Il y a un procès de West et Zampella contre Activision pour réclamer une somme complètement monstrueuse de droits d'auteur. Je crois que c'est 100 millions de dollars.
Non, c'est 400 millions.
400 millions de dollars, pardon. Il y a un procès. Il y a les salariés d'Infinity Wars qui se cassent. Tous les uns
La après moitié, les en fait, se casse du studio. Ils vont tous quasiment chez Respawn. Donc, il y a 50 personnes au total qui se cassent. Et pour compenser, Activision embauche des stagiaires ou des débutants de l'industrie pour remplir Infinity Ward. Et prend son nouveau studio qu'ils avaient monté 6 mois avant, qui s'appelle Sledgehammer, qui est fait de débauchés de EA Los Angeles, encore une fois. Enfin, de Visceral Games, qui est une filiale de EA Los Angeles. Et l'école sur Modern Warfare 3.
C'est ça. Et alors, en même temps, coup de bol ou pas pour Activision, il faut dire que là, en 2010 sort Black Ops, qui est le premier Treyarch à cartonner, en fait. Voilà. C'est-à-dire à rentrer dans la courbe des ventes de Call of Duty.
Bah, ça reste aujourd'hui la plus grosse vente de la série.
Voilà, donc Black Ops, c'est pas un Infinity Ward. Donc finalement, Activision garde la. Finalement, on n'avait plus besoin de West et Zampella, en fait. Et puis finalement, voilà, Call of Duty était devenu un nom suffisamment puissant en tant que tel. C'était peut-être ça aussi l'idée.
Oui, bah, ils voulaient vraiment faire une usine qui crache un jeu par an.
Alors, sachant que on avait cité les noms des studios rachetés tout à l'heure, les Neversoft, les Raven, les Grémateurs et tout ça.
Neversoft qui leur avait aussi à l'époque rapporté pas mal de fric puisqu'ils faisaient tous les Tony Hawk, qui était une des grosses licences à l'époque de
Mais d'Active. Vu qu'il faut sortir un Call of Duty par an et un bon et cartonné, tout le monde devient sous-traitant de Call of Duty.
Voilà. Donc, sur les 14 studios d'Activision aujourd'hui, il y en a 10 qui bossent sur Call of Duty.
La vache.
Super.
Et l'autre licence, c'est Skylanders. Ils ont 2 studios dessus.
Voilà.
Après, ils ont un studio sur Spider-Man et un studio qui fait je sais plus quoi, mais...
Alors voilà, le livre, ça s'appelle Call of Duty, les coulisses d'une usine à succès. Franchement, je vous le conseille. C'est pas un très gros livre. Hein. Ça avait commencé comme un article sur Feu, le site Barre de Vie. Ça a été mis à jour, ça va jusqu'à Titanfall, qui est sorti, parce que Respawn 3 ans plus tard, 4 ans plus...
Le FPS futuriste qu'il voulait faire, c'est celui-là.
Le FPS futuriste, c'est Titanfall, multi sur les consoles next-gen. Activision fait Call of Duty, continue à faire Call of Duty, mais commence aussi à se diversifier, notamment pour assurer le changement de génération de console. Et c'est amusé. Alors, ce passage est complètement dingue, c'est à la fin du livre. C'est arroger les services d'un certain studio Bungie.
Absolument. Ils ont embauché Bungie pour une fortune, pour faire Destiny et pour les 10 ans à venir, en fait.
C'est ça, jusqu'en 2023. Enfin, c'est-à-dire que Bungie est lié à Activision jusqu'en 2023. Et avec des conditions, mais alors ça pue les procès à venir, avec des conditions de royalties en cas de succès des jeux qui sont complètement folles.
Voilà, donc il y a des paliers de succès pour les royalties. Il y a aussi des paliers d'échecs, si le jeu ne vend pas assez ou s'il est trop en retard.
Ouais.
Il y a des dates de rendu tous les ans, avec des spin-offs, avec des suites, enfin c'est...
Sachant que ça commence par un retard, parce qu'ils devaient sortir fin 2013.
Ils ont déjà un an de retard, effectivement.
Ils ont déjà un an de retard.
Ça donne l'impression que personne n'a retenu la leçon de tout ce bordel, en fait, quoi.
Ah non, mais personne ne retient les leçons de quoi que ce soit dans l'univers du jeu vidéo.
C'est pas faux.
Mais ce qui est fou, c'est que en fait, grâce à ces procès et à ces multiples procès, car on avait dit effectivement, il y avait Vince Zampella et West contre Activision, Activision contre Zampella et West, les salariés contre Activision, Activision contre Electronic Arts, Electronic Arts contre Activision. Tout ça, c'est résolu à l'amiable. On n'a pas les sommes, mais ça doit être avec beaucoup de zéros.
Alors Activision n'a pas communiqué, mais West Zampella a dit qu'ils étaient très heureux. Donc voilà.
L'intérêt de ces procès, c'est qu'on a eu les documents en fait. C'est que tout
voilà. Tout est public. Et c'est hyper rare parce que dans l'industrie du jeu vidéo, c'est jamais public. Surtout quand c'est aussi gros que ça. Donc là, tout est public. Et on peut voir tous les documents, tous les mails des dirigeants, tous les mails du piratage d'Infinity Ward. Enfin, c'est.
C'est quelque chose où t'as passé des semaines et des semaines à éplucher tout ça. Voilà, en tout cas, ce petit livre, donc Call of Duty, les coulisses d'une usine à succès, 4,85€ sur Kindle et sur Amazon. Et voilà, ça se lit sur téléphone ou sur ordi, comme vous voulez. Et puis on va finir, vu que je vous ai tous les deux, que ça fait des mois et des mois et des mois que vous parlez de ça régulièrement, j'avais envie de comprendre, et en plus ça sort sur PlayStation 4 et sur PC, parce que c'était une exclue Ouya, ça s'appelle Towerfall, on écoute.
And I, the last of the order, must join these adversaries to save Towerfall. As our world crumbles and splits into chaos, the demons and monsters spread among us. I only hope we're not too late.
Alors, il suffit qu'on dise Towerfall devant Pivomantis ou Netsabes, et puis tout de suite, on a des superlatifs, genre le meilleur jeu de l'univers, il n'y a jamais d'autres jeux multijoueurs, c'est le party game le plus ultimate de tout ça, voilà.
Non, mais écoute-moi, c'est la première fois que je mets un 10 dans un jeu vidéo, dans un RPC.
Ah oui.
Voilà, c'est simple.
C'est tout simple.
Voilà.
Première fois de ta vie que tu mets un 10 à un jeu vidéo.
Voilà.
Et c'est Towerfall. Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément l'occasion d'y jouer avant cette semaine parce que.
Il fallait avoir une Ouya.
Voilà.
On n'avait donc pas l'occasion d'y jouer avant cette semaine. Mais cette semaine, il sort sur PC et sur PS4.
Il n'est pas encore dispo sur PS4 en Europe, mais il va sortir bientôt.
Voilà, il arrive dans les jours qui viennent. Alors, pour jouer à Towerfall, il faut donc un écran. 4 manettes.
Et 3 potes.
Ouais,
il vaut mieux.
C'est ça. Alors, c'est quoi le principe ? Qui s'y colle ?
Le principe, c'est un jeu de deathmatch, vue de côté, en 2D. On joue des archers, on tire des flèches, on tue des gens. C'est simple. On peut sauter sur les têtes pour tuer des gens ou leur planter des flèches dans le cou, par exemple.
C'est ça.
On a des flèches limitées, on les ramasse sur les corps des gens ou un peu partout au niveau.
On commence chaque joueur avec 3 flèches, par exemple, et puis on tire ces 3 flèches, on n'en a plus, donc il faut chercher les flèches qui ont été plantées contre les murs ou sur les gens.
Et ça va à toute vitesse, c'est ultra frénétique, il y a des flèches spéciales qui font des bombes, des ronces, des lasers, c'est n'importe quoi. Les matchs durent quelques secondes à chaque fois, ça va très très vite, c'est malgré tout très skillé, parce qu'il y a une grosse courbe d'apprentissage.
Mais sans oublier d'être accessible.
Voilà. C'est-à-dire qu'on a un stagiaire à la rédac qui n'avait jamais joué au pad avant, qui a commencé avec le jeu, qui au bout de 5 minutes commençait à jouer correctement. Voilà. Donc ça va.
Ouais, on n'est pas dans le truc où il faut tout connaître le jeu par cœur. C'est vrai que tout se passe sur un ou deux écrans. Enfin, je crois qu'il y a des niveaux qui se passent sur plusieurs écrans.
Non, c'est toujours un seul écran, mais en fait, il y a un des bonus. On parlera des bonus après, mais il y en a un en fait qui va faire scroller tout l'écran. Donc voilà.
D'accord. Et donc, il y a plein de bonus. Il y a plein de modes de jeu différents. Il y a des deathmatch, il y a des coopératives. Il y a des teams deathmatch.
Il y a un petit détail que t'as pas oublié. Effectivement, c'est dans une seule map. Mais s'il y a une ouverture d'un côté de la map, on peut ressortir de l'autre.
Façon Pac-Man. Hein,
voilà. Mais là où c'est intéressant, c'est nous, on traverse pas, mais qu'on tire juste une flèche à travers.
Ah,
c'est-à-dire que si moi, je tire une flèche dans le mur de gauche, enfin, dans l'ouverture qui est à gauche, et que Ned, c'est à droite, et la voit pas venir, il se la mange.
D'accord.
Ça devient intéressant.
Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une making du jeu qui s'appelle le dodge, qui permet d'attraper les flèches en plein vol.
Ah oui, c'est ça. C'est que si on est bien, dans le bon timing, si on reçoit une flèche et qu'on appuie sur le dodge, qu'on soit en vol ou pas en vol ou n'importe où, on attrape la flèche et puis on peut la rebalancer. Enfin,
en fait, on peut dodger dans 8 directions, ce qui permet aussi de se faire, par exemple, à l'occasion, un double saut ou d'atterrir plus vite sur la tête de quelqu'un ou d'esquiver des choses ou alors, effectivement, à ce moment-là, de récupérer 1, 2, 3, 4 flèches, même si elles sont tirées assez vite, quoi.
D'accord. Et vous jouez à ça depuis quand et...
Depuis juin.
8 mois, ouais, ça. Ouais, ouais.
8 mois, et ça reste une drogue.
Bon, du tout les jours.
On n'a rien trouvé pour détrôner ça pour le moment. Alors voilà, une fois de plus, on fait vite, donc on ne vous parle pas de toutes les flèches spéciales, de toutes les variantes, parce qu'on peut mettre un nombre incalculable de variantes.
Oui,
dans
j'ai vu la page qui permet de choisir les variantes, c'est un truc complètement fou. Enfin, on peut commencer avec des flèches au hasard, on peut commencer. Finalement, il y a plus de coffres, il y a plus de bonus, il y en a moins, il y a. Il y a un mode où le meilleur joueur
De base, le meilleur joueur a un malus, enfin celui qui est en train de faire le meilleur score a un malus, et le joueur le plus en retard a un bouclier.
D'accord.
Nous en fait on choisit de l'enlever parce qu'on se dit, comme c'est un jeu skillé, il n'y a pas de raison qu'on soit pas tous à la même enseigne. Donc voilà.
Et donc c'est un des modes les plus pour comprendre un peu comment ça se passe, c'est un mode qui s'arrête à la première personne qui a réussi 10 meurtres, c'est ça, ou c'est un des modes de jeu.
C'est 10 meurtres quand on a 2 8 à 3 joueurs et 6 à 4 joueurs.
D'accord. Et donc les parties s'enchaînent jusqu'à très vite.
Ah, oui, de toute façon une manche est finie en quelques secondes, une partie est finie en quelques minutes. Mais on n'a qu'une envie, c'est d'en relancer une, parce qu'aussi on l'a pas dit, mais le level design est excellent vraiment, et on choisit, il y a plusieurs environnements, une dizaine de stages par environnement, et chaque environnement a aussi ses petites astuces, du genre ben, ici il va y avoir plus de lave, là-bas il y aura moins de lumière, dans celui-là il y a une énorme boule qui tourne au milieu, enfin voilà, chaque monde a ses petites astuces quoi, et c'est bourré de mini-astuces à trouver. En fait, si je tire une flèche mais qu'elle traverse un flambeau, elle est en feu, du coup elle peut brûler les ailes d'un mec qui a des ailes ou des choses comme ça. Enfin, ça peut aller très très loin, c'est extraordinaire. La seule chose à dire, c'est qu'il n'y a pas de online, mais on s'en fout en fait. Ouais. On s'en fout parce que c'est pas fait pour ça.
Et il faut 4 manettes.
C'est fait, ouais. Voilà,
ou
il faut 4 manettes.
Et 3 potes.
À partir de 2, c'est déjà très drôle d'ailleurs.
D'accord, ça s'appelle Towerfall, donc bientôt sur PS4 et déjà disponible sur PC.
Et où il y a
Ouya, il faut pas oublier, là Ouya.
D'ailleurs, c'est pas vraiment le même jeu, puisque Towerfall, c'est le nom du jeu Ouya, et maintenant c'est Towerfall Ascension sur PC et PS4.
Et sur Ouya, c'est quand même beaucoup plus moche et moins fluide.
Ouais. D'accord. Donc ça vaut pas le
coup. Mais on y a quand même joué des mois et des mois, comme quoi c'était vraiment quand même le core gameplay qui était bon.
C'est ça. Merci beaucoup, Nets, d'être passé parler de ton livre depuis le temps que j'essayais de t'avoir dans Silence on Joue.
C'est moi ?
Si, je suis bien content. Réussi enfin, c'est un achievement voilà, pour tous les deux, du coup. Donc c'est fini cette semaine pour les jeux vidéo, et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Pipo ?
J'ai découvert un groupe qui existe depuis quelques temps déjà, Nets pourra même en dire plus parce qu'il le connaît mieux que moi, mais ça s'appelle 13 and God. C'est de l'électro-rap un peu ambiante, tu m'arrêtes si je me trompe ou si je dis des énormités, c'est ça. Et derrière en fait c'est un side project du groupe The No Twist, que j'aime déjà beaucoup, avec dedans en fait Doze One, qui est un rappeur, producteur, poète, musicien, qui avait fait la BO de Samurai Gun, un chouette jeu indé sorti il y a quelques temps. Et ce groupe, c'est juste génial, génial, génial.
Ils ont sorti un album,
ils ont alors récemment rien de spécial, mais ils ont 2 albums, plus quelques EP, c'est super bien, c'est tout doux, c'est jamais agressif, malgré un phrasé parfois un peu sec de Doze One qui rappe pas mal, mais c'est vachement bien.
Et tu rappelles le nom ?
13 and God.
D'accord. 13 and God.
13 and God.
13 and God.
13 Esperluette God, si tu veux, voilà.
Nets.
Moi, quand je ne joue pas, je lis généralement. En ce moment, je lis The Burglary de Betty Metzger, qui est un livre en anglais sur Amazon ou autre, qui raconte comment, en 71, une dizaine d'activistes anti-guerre du Vietnam ont cambriolé un bureau du FBI pour prouver l'espionnage du FBI contre les activistes.
Et ils ont réussi à prouver.
Ils ont réussi. C'est la première fois qu'il y a des fichiers secrets du FBI qui sont sortis.
Oh yes.
Et c'est passionnant. C'est un peu long, ça fait 600 pages. Ça traîne parfois un peu en longueur, mais c'est vraiment passionnant.
Et donc, c'est pas un roman.
C'est un document par la journaliste qui avait reçu le premier fichier à l'époque.
D'accord. The Burglary. Donc, ouais. Mais c'est en anglais. C'est en anglais,
c'est 600 pages. Donc, c'est parfois un peu technique aussi, mais c'est vraiment très bien.
Puis en plus, on peut le mettre en parallèle avec toute l'histoire Zampella, espionnage, machin, quoi, on est bien.
Moi, je commence à rattraper mon retard quand même. Je viens de finir Top of the Lake, série. C'est quoi la productrice ?
Jeanne Campion,
donc la leçon de piano. Truc absolument incroyable qui se passe en Nouvelle-Zélande. Alors, c'est un peu noir.
C'est un peu déprimant. Ouais.
C'est un peu déprimant. C'est pas forcément le truc le plus youpi, joyeux de l'univers. Un casting absolument dingo et surtout une direction d'acteur qui tient vraiment la route. Pour le coup, il joue. tout le monde joue très bien. Et voilà, c'est, surtout ça se regarde assez vite, c'est 6 épisodes de 50 minutes. Voilà, c'est Top of the Lake. Et puis voilà, on en a fini cette semaine. Merci encore, tous les deux. Merci Canard PC d'être venu à Silence on Joue. Et nous, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo, ici même.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.